7 milliards de voisins.
Émission spéciale à Bombay.
Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins, nous sommes au Sénégal, à l'université Alioune Diop de Bombay, à 120 km de Dakar. Salut les voisins et les voisines! Merci de nous accueillir sur ce campus de 3000 étudiants, 4000 avec tout le reste de l'université. Nous sommes en partenariat avec le Monde Afrique. L'amphithéâtre est plein à ras-bord. Je ne suis pas sûre qu'on vous entende tellement, là, les voisins, les voisines. Et ça fait chaud au cœur de vous retrouver dans une ville secondaire au Sénégal. C'est une université qui fait partie de la politique de décentralisation pour désengorger la capitale sénégalaise, Dakar, l'université de Dakar. Alors bien sûr, partout dans le pays désormais, que ce soit sur le campus de Thiès, de Saint-Louis ou encore de Ziguinchor, les jeunes se posent la question de leur avenir et de l'emploi. Comment s'insérer sur le marché du travail à 80% informel quand on est diplômé? Faut-il créer son propre emploi? Comment avoir confiance en soi, être capable de développer des projets? Eh bien, des entrepreneurs vont nous raconter les obstacles qu'ils ont rencontrés dans des environnements qui sont aujourd'hui en constante évolution. Et ils vont dialoguer avec vous, les étudiants. Alors, je vous présente nos invités. Thiaba Camara, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Thiaba Camara, vous êtes directrice des opérations dans un fonds d'investissement aujourd'hui, mais vous avez un long parcours d'entrepreneuse. Vous avez créé le cabinet Deloitte au Sénégal. À l'origine, c'était votre propre cabinet. Vous êtes un mélange de goût du risque et d'une implacable rigueur d'expert comptable. Est-ce que j'ai résumé ?
Oui, disons que effectivement, je suis tombée dans l'entrepreneuriat un peu par hasard. Hein. C'était pas une volonté délibérée dès le départ. Mais quand je regarde par-dessus mon épaule, je me rends compte que ce qui m'a servi de fil directeur, ce sont des principes, des valeurs, et oui, la rigueur est une d'entre elles.
Et on va bien sûr en parler avec vous également. Omariam, bonjour Omariam.
Bonjour, bonjour
merci,
tout le monde.
Merci d'être avec nous. On suit votre parcours depuis plusieurs années, Omar. Vous êtes le cofondateur de Speedmail et Wikari. Vous êtes un start-upper. Wikari est une start-up de e-commerce qui permet à des clients non bancarisés d'acheter en ligne partout dans le monde et d'être livrés au Sénégal, mais aussi maintenant au Mali, au Bénin, au Togo. Vous dites souvent, d'ailleurs, partout où il y a des universités, il y a de l'avenir pour notre business, y compris surtout dans de petite ville comme Bombay.
Exactement, parce que quand on regarde les chiffres du e-commerce au Sénégal, à part les grandes villes que sont Dakar et Touba, les principaux consommateurs du e-commerce, c'est les pôles universitaires de Saint-Louis et de Ziguinchor. Donc j'espère que Bombay seront les suivants.
Voilà, vous avez vos clients et la relève. Hein?
D'accord.
Chérif Ndiaye, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez un long parcours d'entrepreneur avec des galères aussi, comme les autres. Vous avez fondé École au Sénégal. C'est un projet social au départ qui met en ligne des cours en vidéo des meilleurs enseignants du pays en suivant les programmes scolaires. Combien de visiteurs pour les terminales qui passent le bac maintenant ?
50 000 visites par mois.
50 000 visites par mois. Mmh. Pas seulement au Sénégal, hein ?
On a 10% qui nous suivent présentement en France, une bonne partie donc en Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie. Au Sénégal, pendant les périodes d'examen, on est à 67% de visiteurs.
Et vous avez fait des meilleurs enseignants du Sénégal, des stars de start-up, finalement, grâce aux vidéos. Oui. Merci en tout cas à tous les trois d'être là. On va bientôt démarrer le dialogue avec les étudiants de l'amphithéâtre de l'université Alioune Diop de Bombay, au Sénégal.
7 milliards de voisins, on existe ensemble.
Alors moi, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis surprise que des entrepreneurs comme vous, qui avez des journées tellement longues, acceptent de faire 6 heures de route dans la journée pour parler avec des jeunes. Parce que on était ensemble dans la voiture, vous ne pouvez pas travailler, on n'est pas comme dans le TGV. Je pense qu'en France, ça serait assez inconcevable que des entrepreneurs consacrent autant de temps à venir parler à la jeunesse. Thiaba Camara.
Oui, alors je dirais que c'est peut-être explicable de par la culture du Sénégal. Nous sommes beaucoup dans le partage. Il n'y a pas de rupture intergénérationnelle comme on peut l'observer dans d'autres civilisations, peut-être dans d'autres sociétés. Et en ce qui me concerne, arrivé à un certain point de ma carrière, de ma vie personnelle, j'ai envie et besoin de transmettre. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir. Ce n'est pas une première. Hein. J'ai eu à faire ce genre d'exercice pour des jeunes de Pikin. C'est vous la relève, hein. C'est vous le futur de ce pays. Et vous êtes ce que nous avons de plus précieux, vous êtes nos enfants. Et il est important que vous ayez conscience du rôle que vous pouvez jouer pour le développement du Sénégal. C'est le message que je viens vous porter.
Chérif Ndiaye, est-ce que c'est ça aujourd'hui être un patron en Afrique? C'est faire 6 heures de route pour aller parler dans une petite université en termes d'effectifs?
Pour moi, l'université ne peut pas être petit. Quand on regarde donc le parcours et le profil des étudiants, c'est quand même des gens qui ont fait au minimum 13 ans d'études pour en arriver là. C'est des combattants. Et c'est ce qui me motive. J'adore partager donc ce que je fais. J'adore inspirer et j'apprends énormément du public. Donc, c'est des gens qui m'inspirent. Et c'est pour cela que je ne regrette pas d'avoir parcouru ce kilomètre qui ne sont pas longs. Hein. C'est agréable.
Ou Mariam, vous... Voilà des patrons qui savent vous mettre à l'aise, les étudiants. Ou Mariam, vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, vous avez monté une start-up, vous êtes la jeune génération, mais néanmoins, vous êtes moins jeune que les étudiants que vous avez devant vous. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette génération-là, Oumar?
Ben, voilà, moi, en fait, c'est ce que disait Tiaba, c'est le partage et surtout inspirer. Parce que je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, bon, peut-être 7-8 ans, quand j'étais encore étudiant et que j'avais décidé de me lancer dans une activité, ben, je faisais ça. Je parcourais les universités ou les conférences pour entendre des entrepreneurs parler.
Ah
voilà.
Bon?
Oui, ça m'inspirait.
Ah, vous avez commencé comme ça avant
voilà.
de lancer?
Ça m'inspirait et j'allais leur parler après. Parce que j'avais déjà mon projet en tête et je demandais des conseils.
Donc, dans la salle, là, il y a des futurs start-upers ou Mariam en puissance.
Voilà, en pagaille.
Qui seront vos concurrents, peut-être.
Bien sûr.
Dans quelques
bien
années.
Et la force qu'ils ont, c'est que nous, les outils actuels, par exemple, si je prends quelqu'un comme moi, je suis dans la tech, mais je suis logisticien. Et il y a des outils comme la blockchain, l'intelligence artificielle. C'est des choses que j'entends. Je lis pour me documenter, mais techniquement, je ne peux pas l'expliquer. Et là, on a des jeunes qui vont bosser dans ça. D'ici maximum 3-5 ans, ils vont travailler dans ça. Obligés qu'ils aillent justement vers ces nouveaux métiers qui vont leur permettre de pouvoir s'en sortir.
On va donner la parole aux auditeurs à la salle dans l'amphithéâtre de l'université Alioune Diop de Bambay. Oui.
Est-ce qu'il faut nécessairement aller en master pour être entrepreneur, pour créer son propre entreprise?
Alors, la durée des études, c'est une vraie question de fond, ça. Ou Mariam?
Oui. Je parle de mon expérience personnelle. Moi, je ne me voyais pas du tout faire de longues études. Quand je suis arrivé, j'ai fini le DEUG. Je me suis rendu compte que voilà, c'était encore assez général. Les parents ont poussé, je suis allé jusqu'à la licence. Après, ils m'ont dit, bon, vas-y, spécialise-toi un peu. Parce que j'avais déjà des projets, je voulais déjà partir. Mais ils m'ont dit, bon, spécialise-toi. Et puis, voilà, tu vas découvrir autre chose. Ça va peut-être te permettre de voir qu'est-ce que tu veux faire exactement. Donc, j'arrive en master. Je fais un master de finance. Et j'ai un projet dans la logistique. Et ce master de logistique m'a permis de bien approfondir mon projet. Je ne dis pas forcément qu'il faut entreprendre dans la filière dans laquelle on a étudié. Mais ça aide. Ça facilite beaucoup de choses.
Chérif Ndiaye?
Pour moi, c'est deux mondes qui n'ont des fois rien à voir. Au Sénégal, on a des entrepreneurs à succès qui n'ont pas étudié l'école classique. Je veux dire qu'ils n'ont jamais été dans un amphithéâtre. Aujourd'hui, qui emploient des centaines de personnes. Moi, mon parcours, effectivement, c'est un parcours qui m'a beaucoup aidé pour ce que je fais. Parce que après le bac, j'ai fait une école de commerce.
Dès la première année dans l'école de commerce, vous allez chez le tailleur, vous faites tailler des uniformes et vous les revendez aux étudiants.
Exact.
Vous êtes déjà entrepreneur étudiant.
Oui, j'ai démarré. Décidément, difficile de vous faire des confidences, vous n'oubliez jamais. Donc j'ai démarré effectivement ainsi, on était à peu près 2000 étudiants à l'époque. Et je voyais que chacun se débrouillait pour avoir son uniforme. Je me suis dit, c'est une manne financière. Donc, j'ai déposé une demande d'agrément au niveau de la direction qui l'a accordée. Et j'ai passé mon temps à convaincre d'abord mes camarades de classe qui été les cobayes. Pour changer un peu de design, les autres ont aimé et j'ai eu donc le marché global de cette école-là. Après, j'ai travaillé pour l'État. J'ai intégré l'APIX, donc du temps de l'ancien président, où j'étais donc responsable de la génération de l'investissement. Ça m'a permis de côtoyer des entrepreneurs au quotidien. Ça veut dire tous les jours, soit des entrepreneurs étrangers quand on voyageait pour les faire venir au Sénégal afin qu'ils puissent investir, ou bien des entrepreneurs locaux qui voulaient faire des fois des extensions. Donc, en discutant avec eux, tu te rends compte que des fois, ces gens-là, ce qu'ils ont de plus que toi, c'est l'audace. Ils ont dit, ah tiens, en un moment, j'ai envie d'être mon propre patron. Okay? Ils ne sont pas forcément plus diplômés que vous. Ils ne sont pas des fois plus nantis financièrement, je veux dire, que vous. Ils ne sont pas dans des environnements, des fois, qui est favorable, mais ils ont osé. Donc, dans ma tête, je me suis dit, à 30 ans, il fallait que je sois patron. Donc, je me suis préparé et puis voilà.
Ouais, alors, on aura la suite de l'histoire. On aura la suite de l'histoire au fil de l'émission. Vous avez monté un centre d'appel, etc. Ouais. Sur l'audace, Thiaba Camara, il y a une question qui revient souvent chez les entrepreneurs, c'est il faut que les jeunes travaillent la confiance en eux. Vous avez le sentiment que les jeunes, en dépit de leurs problèmes familiaux, financiers, bien sûr, hein, se créent aussi parfois des prisons mentales.
Oui, et il n'y a pas que les jeunes, hein. Je ne le suis plus, j'ai aussi parfois mes doutes, mes réflexions, mais la confiance en soi, elle est fondamentale, parce que finalement, si vous n'avez pas confiance en vous, pourquoi est-ce que les autres vous feraient confiance ? Est-ce qu'il faut avoir un master avant de se lancer dans l'entrepreneuriat ? J'ai envie de répondre, franchement, sans jeter de pavé dans la mare, je ne crois pas que notre modèle d'éducation actuel forme à l'entrepreneuriat. Dans ce pays, les entrepreneurs, comme le disait Chérif, ceux qui réussissent le mieux sont en général ceux qui ne sont pas allés à l'école.
Waouh, vous nous dites ça, parce là on est au milieu d'une université sur un campus.
Et oui, parce que nous avons fait le choix de... Enfin, quand je dis nous...
Enfin, vous avez tous fait des études supérieures, tous les trois.
Oui, mais c'est...
Ceci dit, vous avez fait des études dans une école de commerce, Thiaba Camara, mais vous m'avez quand même confié que vous auriez adoré, quand vous étiez jeune, vous lancer dans l'élevage de poulets.
Ah, je l'ai fait.
Vous l'avez fait au tout début.
Ah, je l'ai fait.
Mais
ah, oui.
Alors là, quand même, inquiétude dans la famille. Pourquoi?
Oui.
Parce que ça aussi, ça fait partie des freins. C'était... La famille, la communauté, la société, on est tous le produit d'une société.
Alors, culturellement, en parlant du Sénégal, mais je pense que c'est valable pour pas mal d'autres environnements, on n'est pas très porté sur le risque. On a ses freins. Il se pourrait qu'on échoue. Ben oui, mais rappelons-nous que qui ne risque rien n'a rien. Donc cette situation que vous décrivez, Emmanuel, j'étais salariée dans un cabinet d'audit. Et à mes heures perdues, j'élevais des poulets et je faisais du maraîchage et j'allais vendre mes légumes au marché. Et j'ai énormément appris en fréquentant des agriculteurs à côté de Dakar, à Kermassar. Et à un moment, mon revenu, donc le revenu que je percevais de ces activités agricoles, était devenu à peu près équivalent au salaire que je gagnais, avec beaucoup moins de stress, quoi. Et d'une façon qui me permettait de mieux m'épanouir. Mais quand j'ai annoncé à mes parents mon envie de démissionner pour m'occuper de mes poulets, oui, la réaction a été très inquiète, carrément indignée de la part de ma mère. Avec le diplôme que tu as, ton ambition, c'est d'aller vendre des poulets. Aujourd'hui, j'ai envie de lui répondre, eh bien, j'aurais dû, parce que vous connaissez tous Babacar Ngom, qui est le patron, le fondateur de Sedima, qui est aujourd'hui un des personnages phares de notre environnement économique, en vendant des poulets et en commençant petit. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion de revenir sur ce genre de modèle.
Oui, mais moi, si je voulais revenir. Pareil, hein, par rapport à mon expérience personnelle, quand j'ai fini mes études, je suis arrivé avec mes diplômes. Il y avait déjà un frein chez les parents. Parce qu'à chaque fois, ils me voyaient sortir, aller faire mes choses et revenir. Mais ils me disaient, est-ce que tu cherches du travail ? Moi, je disais oui. Je disais oui. Hein. À un moment, ils s'en sont rendus compte que je ne cherchais pas de travail, en fait. Et que j'allais à un endroit avec des potes. qu'est-ce qu'on faisait là-bas? On leur a expliqué ce qu'on voulait faire, mais ils ne comprenaient pas. Comment vous pouvez être là avec des masters et être sur des scooters à livrer du courrier? Voilà, c'était un peu compliqué pour eux. Et ma mère a pris mon CV et elle partait les déposer pour me trouver des entretiens. Et à chaque fois, elle revenait, elle me disait, j'ai un rendez-vous à telle entreprise, vas-y. Je disais oui, mais j'y allais jamais. Voilà, juste pour vous dire que voilà, il y a des freins comme ça. Si on est assez motivé, on arrive à les transcender. Par rapport à la confiance en soi aussi, c'est pareil. Je veux dire, si vous n'avez pas confiance en vous, la personne qui est en face de vous, à qui vous voulez vendre un produit, s'il le voit, il ne vous donnera jamais un marché. Et moi, c'est l'ambassade des États-Unis qui m'appelle un 1er juillet et qui me dit, monsieur, on vous a vu communiquer sur Internet que vous faites de la livraison de courrier. Notre prestataire vient de nous lâcher. La fête de l'indépendance, c'est le 4. On doit distribuer 1000 enveloppes en 24 heures, maximum 2 jours. J'ai dit oui, c'est facile.
Et vous étiez prêt?
Je ne l'avais jamais fait.
Vous ne l'aviez jamais fait?
Je ne l'avais jamais fait. J'ai dit oui, c'est facile.
D'accord.
Ils m'ont appelé, je sais que...
Donc, jette-toi à l'eau et nage.
Ben, voilà, en fait, c'est ça. C'est avance, fais des choses, prends des risques. Voilà, moi je l'ai pris et puis...
Et si on rate? Et si c'est l'échec? Ben,
si on rate, on a raté, mais voilà, c'est...
vous restez avec nous. Oui,
j'ai envie de dire une chose, parce qu'Emmanuel dit, et si on rate, si on échoue? J'ai l'habitude de dire, tous les gagnants du loto ont un point commun. Vous savez c'est quoi le point commun? Ils ont tous joué. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. S'il ne prend pas des risques, il ne peut pas savoir, je veux dire, s'il va gagner ou pas. Donc, l'univers des possibilités est multiple. Donc, il faudrait oser prendre des risques, mais des risques calculés quand même.
Oui. Petite parenthèse, vous avez eu un centre d'appel, 70 postes, que vous avez dû fermer. C'était la catastrophe à une certaine époque, shérif, pour vous.
C'est vrai. En un moment, j'ai eu à investir beaucoup d'argent parce que je voyais grand. Donc, j'ai mis mes économies, mais également avec l'argent que ma mère m'a donné pour démarrer. Donc, passionné de communication et autres, j'ai mis en place un centre d'appel avec 70 positions de travail. Ça veut dire à peu près 150 collaborateurs. 2 ans après, j'étais obligé de fermer parce que 80% de mon chiffre d'affaires venait de l'étranger, notamment de la France. Donc,
on était après la crise de 2008.
Après la crise de 2008. Donc j'avais ces marchés-là. Sarkozy, président, qui voulait donc protéger les entreprises françaises. Donc moi, c'est 80% de mon chiffre d'affaires qui disparaît. Je commençais à être endetté. Très jeune, bon, les gens me regardaient, des arriérés de salaire, 2 mois sans payer, donc des salaires, c'était problématique. J'ai décidé donc de faire un dépôt de bilan et de passer à autre chose. C'est pas quelque chose, je veux dire, qu'on souhaite quand on est entrepreneur, mais c'est un passage qui nous a permis aujourd'hui peut-être d'arriver là où on est parce qu'on a connu l'échec. Faut pas avoir peur d'échouer. L'échec, il faut l'intégrer comme le succès.
Vous restez avec nous, les entrepreneurs. Dans quelques instants, on vous donne la parole, les auditeurs, les étudiants. Dialogue, comment organiser son destin, son insertion professionnelle? Peut-on créer son propre emploi? On en discute à l'Université Alioune Diop de Bambay, au Sénégal.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Vous écoutez 7 milliards, on est sur RFI à l'Université Alioune Diop de Bambay. Un auditeur veut réagir?
Voilà, je m'appelle Biram Koudjelo. Je ne suis pas étudiant, je viens de Dakar comme ça. Je suis un instituteur. Il ne suffit pas d'étudier pour être un entrepreneur. L'autre l'a si bien dit, on est né entrepreneur. À 10 ans, on commence à entreprendre, on commence à aller et venir, on commence à acheter, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous ne devez pas vous concentrer pas seulement sur des études. Vous êtes dans un pays sous-développé. Aujourd'hui, pour assurer vos études, moi je l'ai fait, n'est-ce pas? Lorsque j'étais étudiant, lorsque j'étais à l'école, je travaillais en même temps. Je vendais des poules, je vendais d'autres choses. J'entrais, je faisais de la photographie.
Alors, la question c'est, on va en parler, est-ce qu'on peut devenir entrepreneur si on n'est pas né entrepreneur à 10 ans? Un auditeur veut s'exprimer.
Je m'appelle Mbaïlo Ndao.
master d'ingénierie de développement territorial à l'université Aline Diop de Bambey. Donc, comme vous l'avez dit, on est entrepreneur. Donc, en étant étudiant aussi, on peut s'investir et donc créer son propre entreprise. Donc, nous l'avons compris en tant qu'étudiant. Donc, nous avons fait un peu de commerce. Donc, installer une imprimante, faire des photocopies, des imprimeries. Et aussi, il y a un camarade aussi à côté qui vendait de la glace aussi, du lait, voilà, pour les étudiants qui viennent s'alimenter.
Donc, votre commerce de service, la photocopie et puis la glace, oui, c'est sur les campus, hein?
Oui,
c'est vos clients, campus, oui. C'est vos camarades.
Oui, c'est les camarades, oui.
Sauf que vous êtes le seul à porter une chemise-cravate. Pourquoi?
C'est ma mise, en quelque sorte. Je soigne ma mise.
C'est le patron.
Allez, qui veut réagir là? Qui veut questionner les entrepreneurs?
Bonjour, mon nom c'est Binta Diop, ingénieure en développement durable et management de l'environnement. Et la question suivante, je la pose à la femme que j'apprécie, femme de valeur.
Siaba Camara.
Quand vous parlez de la confiance en soi, moi je sous-entends les forces, c'est-à-dire les améliorer, et les faiblesses, c'est-à-dire les contourner. Quels sont les vrais problèmes qu'on rencontre et quels sont les conseils que vous voulez nous faire passer? Merci.
Peut-être sur la question des femmes, Tiaba Camara.
D'abord de manière générale et puis ensuite en faisant un focus sur les femmes, parce que c'est vrai que les femmes qui travaillent ont des contraintes différentes de celles des hommes. La confiance en soi, elle se travaille, elle se construit. Elle vient beaucoup d'un état d'esprit de préparation. Chaque fois, face à une situation qu'on envisage, vous avez passé des examens, tous, hein, et vous savez bien que votre confiance en vous n'est pas au même niveau selon que vous avez bien révisé le sujet de l'examen ou pas. C'est la même chose dans la vie. Disons que pour moi, 90% du succès, c'est d'abord de la préparation. Et la préparation, c'est en fonction des situations, ça peut être l'expérience, c'est la formation, c'est de se donner la peine, quelle que soit la situation, de se préparer mentalement, d'anticiper, etc. Un autre conseil que je souhaiterais vous donner, vous allez vous lancer dans la vie, dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas se focaliser immédiatement sur l'enrichissement rapide. Ça n'est pas ça la valeur. C'est-à-dire, l'enrichissement, au fond, c'est une conséquence qui vient de l'activité qu'on aura plus ou moins bien menée. Focalisez-vous sur ce que vous allez apporter. Objectivement, regardez autour de vous. Et je ne parle pas que du Sénégal, je m'adresse également à nos amis du Togo, du Bénin. Les Mama Benz, les femmes qui sont au marché, pour parler juste de l'informel. Et puis, autour de nous, mais il y a plein de femmes aux manettes, hein. On est peut-être plus discrètes, on cultive peut-être moins le faire valoir, mais nous sommes là. Alors, les difficultés à être entrepreneuse femme, pourquoi est-ce que...
En deux mots, ça serait quoi? Ben
c'est qu'on a un agenda beaucoup plus chargé, tout simplement. Dans une journée, il y a 24 heures. Et où vous êtes aujourd'hui dépend de la manière dont vous avez utilisé ces 24 heures par le passé. Voilà, on n'a pas une minute de plus, donc c'est des choix d'activité pendant des plages horaires. Ce qui est plus compliqué pour les femmes, c'est que souvent, une fois qu'elles sont mariées, elles ont la charge du mari, de la famille, des enfants, etc. Le pilier social, ce sont les femmes. Quand je rentre chez moi après une journée de travail, je commence mon travail de maman et d'épouse et de maîtresse de maison. Alors que mon collègue, que j'ai quitté, rentre chez lui et porte ses pantoufles et se laisse servir par son épouse et sa famille.
Allez-y, une voisine là, sur les inégalités hommes-femmes face à l'entrepreneuriat.
Bonjour, je m'appelle Kafumbo, je suis en deuxième année en économie et management. J'aimerais intervenir sur ce que disait Madame Camara. Au fait, le frein principal de la société sénégalaise pour l'entrepreneuriat, c'est la famille. Parce qu'on voit dans la famille, comme dans ma situation, mon grand-père était comptable. J'étais obligée de faire la série G pour, pour faire de la comptabilité. Je voulais faire du stylisme, mais je ne veux pas aller à l'encontre de mon père. Je fais de la comptabilité pour après avoir...
Quand je prendrai mon diplôme... Ce n'est pas une peur du risque, c'est une peur du conflit familial.
Oui, hein. Mais c'est un risque parce que quand on te dit qu'au Sénégal, si tu fais du stylisme, que tu ne vas pas t'en sortir, à l'avenir, on te dira si tu avais fait de la comptabilité, tu t'en sortirais. Et la seule fille qui est sortie du lot, c'est ma cousine. Elle a fait sciences politiques et tout le monde dans la famille, tous les jours, tu es toujours en Sciences Po. Et maintenant, elle est là, elle dit si les gens avaient raison, que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas la bonne décision, qu'est-ce que je ferais? Alors que nous qui sommes en comptabilité, nous nous disons que nous, c'est sûr, on va réussir parce que papa et grand-père ont réussi là-dedans. Donc nous, on va réussir.
Il ne faut pas abandonner ce rêve. Hein. Quand on a une passion, il faut la poursuivre. Vous êtes en comptabilité, allez faire un stage dans une société auprès d'un couturier ou auprès d'un styliste. Apprenez et puis formez-vous en parallèle. C'est à cet âge-là qu'on a l'énergie et le temps d'explorer ses passions et de chercher ce qu'on veut véritablement faire dans la vie. C'est à vous de trouver votre voie. Je comprends qu'on ne puisse pas s'opposer à l'autorité parentale, mais que ça ne vous empêche pas de découvrir votre véritable horizon. Mais faites preuve d'initiative, allez chercher là où votre instinct, vos passions, votre intuition vous porte. Et il y a des moyens autres que juste l'école.
Je pense qu'il faudrait, quand on est entrepreneur, homme ou femme, on a un savoir-faire qu'il faut faire savoir. La différence, c'est que les femmes qui réussissent souvent se cachent. Les hommes, il suffit qu'ils fassent peu, veulent montrer tout de suite qu'ils ont fait quelque chose de grandiose. Donc il faudrait sortir de votre zone de confort ou de sécurité en un moment. Par rapport à la dame, la question sur l'entrepreneuriat social. Quand on est entrepreneur social, souvent on est incompris. C'est plus compliqué quand on est entrepreneur seul. Parce que quand on est entrepreneur social, les gens pensent que tu mendies pour vivre. Non. Entrepreneur social, c'est un entrepreneur qui a un projet à fort impact social, qui est jugé pas par rapport au chiffre d'affaires, mais par rapport à l'impact que l'activité fait. Et l'une des difficultés est d'abord juridique. Ça, il faudrait qu'on en parle. Il n'y a pas de réglementation aujourd'hui qui définit un entrepreneur social au Sénégal. Ça veut dire que c'est toi qui te dis « Ah tiens, vu ce que j'ai fait, je suis entrepreneur social. »
C'est votre cas avec les vidéos, des cours, des professeurs au Sénégal, exact. En libre service, en libre accès, pour les étudiants de terminale, pour les étudiants...
Du BFM, de troisième...
Qui prépare le brevet.
Qui prépare le brevet. Donc moi, pour en revenir à moi, en un moment, je me suis dit, j'ai de l'argent, mais je n'ai pas d'impact. Il ne faut pas avoir peur également de dire que tu as de l'argent. Au Sénégal, c'est un tabou. Hein. Les gens qui sont riches se cachent. Je me suis dit, bon, est-ce que réellement je sers à ma communauté? Donc c'est ça, c'est important. Qu'est-ce que je peux faire à la communauté? Beaucoup de grèves passionnées du numérique. Qu'est-ce que le numérique peut faire pour diminuer les grèves? Si on ne diminue pas les grèves, que les élèves, je veux dire, qui sont perturbés, ne puissent pas rater les cours. Que l'élève qui est en salle de classe et qui ne comprend pas, mais qui ne veut pas que ses camarades se moquent de lui, peut rentrer tranquillement, regarder le même cours donné par un grand professeur qui explique peut-être mieux que ce professeur-là, autant de fois qu'il le souhaite, jusqu'à compréhension. Donc on s'est dit que c'était possible parce que Internet est accessible quasiment à tous. Même si Internet n'est pas accessible, on a fait de telle sorte que nos cours puissent être téléchargés par tout le monde. Ça veut dire qu'on n'a pas verrouillé. On me dira, ces genres de personnes ne sont pas quantifiées. Mais ce n'est pas l'objectif pour nous, c'est de lutter contre les inégalités en matière d'accessibilité du savoir.
Alors, quand vous dites entrepreneur social, Chérif Ndiaye, ça ne veut pas dire entrepreneur humanitaire. Hein. Vous gagnez quand même votre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle économique de École au Sénégal, il s'est transformé. Il y a des annonceurs sur les vidéos qui font que vous pouvez payer les moyens techniques pour filmer les cours en vidéo.
C'est important.
Parce que les étudiants vont se demander sinon comment
vous
faites.
Vous avez raison. Ça veut dire un entrepreneur social ou une entreprise sociale doit avoir un modèle économique. Donc, doit être viable. Mais ça se construit dans le temps. Ce que j'ai fait, la première année, j'ai mis mon argent. La deuxième année, j'ai commencé à être connu. Donc, j'ai passé mon temps à faire des concours. À chaque fois que je vois, il y a un concours pour entrepreneur social, il y a un concours sur l'éducation, on soumissionnait et la plupart ont gagné. On a levé quand même assez d'argent sur le modèle École au Sénégal. On a levé à peu près 120 millions de francs CFA. Ce n'est pas au niveau local, c'est sur l'international. Mais 120 millions, moi, ça me permet de vivre pendant 2 ans avec École au Sénégal. Et ça, c'est également un modèle économique. Le troisième point, c'est aujourd'hui, on a une visibilité parce qu'on a quand même 50 000 jeunes qui sont âgés de moins de 21 ans, qui intéressent toutes les entreprises quasiment qui font du commerce.
C'est-à-dire que vous avez Oumariam comme annonceur, par exemple, Wikari, fait de la pub sur votre site.
Qui peuvent visiter et dire, OK, je vais prendre une bannière publicitaire. Je vends des stylos. Les élèves et étudiants vont sur le site École au Sénégal, je vais placer mon produit de stylo sur ce site-là. C'est comme ça qu'on parvient à gagner de l'argent. Le troisième, c'est qu'on est des producteurs de contenu sur YouTube. Donc, tous les mois, vu qu'on met du contenu de qualité et que YouTube met des pubs sur nos cours, chaque fin du mois, il nous reverse également une partie de l'argent généré. Voilà comment je gagne ma vie.
Vous restez avec nous, les voisins, les entrepreneurs jouent les mentors aujourd'hui pour 7 milliards de voisins. Ils répondent aux questions des jeunes, des étudiants sur le campus Alioune Diop de Bambay au Sénégal. Alors, comment vous avez réussi? Des réponses à partir de vos expériences. On redonne la parole dans la salle dans quelques instants.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Qui veut réagir dans la salle? Un voisin au premier rang.
Je m'appelle Serigne Bakesek, je suis étudiant en première année, sciences appliquées et technologies de l'information et de la communication. J'avais juste voulu demander, il faut accepter de prendre des risques. Mais je vois que ça aille parfois au-delà des risques. Parce que vous pouvez vivre dans des familles où vous avez la volonté, ou bien l'amour de faire quelque chose, ou de suivre quelque chose. Mais si on ne vous encourage pas, si on ne vous tend pas la main, si on ne vous demande pas d'aller faire ce que vous voulez faire, vous pouvez avoir des problèmes après. Parce que vous pouvez vivre avec votre père, par exemple, qui vous prend en charge. Vous travaillez, mais il vous dit que si vous faites ceci et que vous n'y réussissez pas, moi, je ne vais plus vous prendre en charge. Maintenant, est-ce que cela ne reviendrait pas aux parents de nous laisser faire parfois ce qu'on a envie de faire pour pouvoir tendre vers la réussite? C'est ce que j'avais voulu demander à ce monsieur.
Oui, mais enfin, bon, Oumariam, vous avez quand même eu une maman qui a distribué votre CV partout et avec qui ça ne s'est pas bien passé pendant un moment.
Au début, ça ne s'est pas bien passé. Mais quand elle a vu l'effort que je faisais, limite, elle a eu pitié de moi, en fait. Parce que j'étais dans la maison, j'étais le premier à sortir de la maison et j'étais le dernier à rentrer. Et j'habitais très loin de mes premiers bureaux. Et quand elle a vu l'effort que je faisais, là, elle a commencé à s'intéresser à ce que je faisais. Et c'est là où elle a commencé à me soutenir. Parce que au départ, si elle n'avait pas mis son argent, je ne pense pas que j'en serais là.
Mais vous avez persuadé votre mère par le mérite?
C'est ça, en fait, par l'effort. Après, par contre, sur ce qu'il a dit, quand on est entrepreneur, mec, on est seul. Ça, c'est chez tous les entrepreneurs. C'est la solitude. Pour le départ, tu es tout seul. Beaucoup de gens ne te comprennent pas. Mais tu es obligé d'avancer si tu as vraiment envie de faire ce que tu fais. Donc, quelquefois, il faut savoir allier et essayer de convaincre, même si c'est subtil. Essayez de faire comprendre à vos parents que vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Parce que si je reviens sur ce que disait la fille, rien n'est dit, ce n'est pas écrit quelque part qu'elle va réussir en tant que comptable et échouer en tant que styliste. On ne sait pas. Si tu ne testes pas ce que tu veux faire, ben, tu ne sauras jamais.
Qui veut réagir? Poser des questions aussi sur le nerf de la guerre dans l'entrepreneuriat, comment on lève des fonds si on n'a pas de l'argent de famille également. Vous avez la parole.
Je m'appelle Basile Diatta, de l'université Alioune Diop de Bambay. J'invite aux entrepreneurs ici présents, aux financeurs, aux bailleurs, à l'État du Sénégal, bref, à toute personne ou entité sensible à la question de l'emploi des jeunes, d'investir au niveau des universités. C'est que l'État du Sénégal, lui-même qui a pu mettre autant de milliards pour la formation de ces jeunes, soit capable de mettre à la disposition de toutes les universités du Sénégal des fonds pour financer les projets des étudiants. Je pense qu'avec ça, on pourra résoudre le problème, même si ce n'est pas à 100%, mais à moitié le problème de l'emploi des jeunes. Oui. Tous ces jeunes que vous voyez là, ils ont la plupart un désir ardent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est sur cela que je veux me lancer.
Alors, c'est vrai que les concours d'entrepreneuriat se multiplient sur le continent, au Sénégal et pas seulement, hein, ailleurs. Les uns les autres, vous avez gagné des concours d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, beaucoup disent que ces concours ne mènent à rien, il n'y a pas de fonds beaucoup derrière. Concrètement, vous, comment vous avez fait pour lever des fonds, ou Mariam?
Bon, moi, je vais peut-être en choquer quelques-uns ici. Mais si moi, on m'avait donné de l'argent pour financer, je ne financerais pas des idées. Tu viens de dire qu'il y en a beaucoup qui veulent être entrepreneurs. Je financerai ceux qui auront déjà commencé. Ceux qui viendront me montrer, regardez ce que j'ai fait sans rien. Ceux-là, je leur donnerai de l'argent. Le reste qui n'a pas eu l'initiative ou fait quelque chose, qui est resté au stade de projet papier, ben, ils n'ont pas eu le courage de se lancer. Pour moi, la différence, elle est là-bas. Que ce soit l'État, que ce soit les banques, que ce soit les bailleurs, que ce soit la banque mondiale, ils ne financeront pas quelqu'un qui n'a jamais rien fait. C'est pour ça qu'on vous dit, allez dans les associations, faites des choses, tentez des choses, ayez de l'expérience. Avec ça, vous vous créerez forcément un réseau. Vous connaîtrez des gens qui pourront vous aider à faire avancer votre projet et qui peut-être pourront financer votre projet. Mais un projet au stade d'écriture sur du papier, je ne mettrai jamais mon argent dedans, personnellement. Voilà. Donc moi, comment j'ai fait pour me financer? J'ai commencé tout seul avec mes cofondateurs, puisqu'on est trois associés. On a mis chacun de l'argent qu'on avait un peu mis de côté, mais ça s'est fini en 2 mois. Une fois que tu as acheté les premières machines ou les 2 premiers scooters, l'argent est fini. Après, il faut encore trouver de l'argent. Donc, tu fonctionnes plusieurs mois sans revenus, puisque tout ce que tu gagnes, tu le remets dans l'entreprise. Et après, il y a les parents, il y a les amis qui ne sont pas devenus entrepreneurs, qui sont allés travailler et qui avaient déjà des revenus. Si tu arrives à les convaincre, ils te donnent de l'argent. Et c'est ce mix-là qu'on appelle du love money. C'est ça qui te permet de te lancer vraiment. Et une fois que tu as avancé à un stade et que tu dois passer à un autre cap, c'est là où tu dois chercher du vrai financement. Ben, ce que tu as fait pendant toute cette période, c'est ce que tu montres. Tu viens dire aux gens à qui tu veux demander de l'argent, voyez ce que j'ai fait pendant 2-3 ans avec pas grand-chose. Peut-être que si vous me donnez de l'argent, ben, je vais pouvoir exploser, multiplier mon activité par 5, par 10. Voilà. Moi, personnellement, c'est ce qui s'est passé. Donc, un financement du Love Money et après, recherche de fonds avec un fonds d'investissement.
Teranga Capital.
Où ça a duré pendant peut-être 2 ans, où il fallait les convaincre, il fallait leur monter une comptabilité claire, il fallait commencer à payer ses impôts, comme disait le monsieur, parce que quand on démarre, on n'est pas formel. Quand on démarre, on ne paye pas d'impôts, on ne fait pas de déclaration. Et pour avoir un vrai financement, ben, il faut être clean sur tout ça. Et ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il suffit d'être un peu patient. Mais surtout, lancez-vous.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve. Tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour n'en former qu'un seul.
On repart dans la salle. Les voisins, les voisines, le micro circule. Vous avez la parole.
Alors bonjour, je m'appelle Serine Djibril Sigal-Tibadi. Donc, tout à l'heure, monsieur parlait des difficultés rencontrées quand il établissait son entreprise. Et ce que j'aimerais savoir, c'est par exemple, si en cas d'échec, comment faire pour savoir c'est quoi exactement le problème? Est-ce que c'est en rapport avec notre motivation? Est-ce que c'est en rapport avec notre business plan? Ou bien il conviendrait tout bonnement d'abandonner, d'orienter vers de nouveaux domaines?
C'est une bonne question, parce que rebondir après l'échec, vous l'avez dit tous les trois, mais comment apprendre de son échec, comprendre ce qui n'a pas marché, Thiaba Camara?
Il n'y a pas de recette toute faite, hein, mais en général, on sait quand même ce qui ne va pas. Pour moi, un échec est toujours quelque chose de positif dans la mesure où il vous rend plus sage, il vous rend plus expérimenté. Je ne dis pas que je ne tomberai jamais. Ce que je refuse, c'est de trébucher 2 fois sur le même obstacle, parce que je n'aurais pas su l'analyser correctement. Ne pas être capable de tirer les leçons de son ou de ses échecs, ça c'est un problème, ça c'est un handicap énorme. Et ça veut dire que peut-être on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Ce qui est en général très difficile, c'est d'avoir l'humilité de se remettre en cause, c'est d'avoir la lucidité, le recul nécessaire pour analyser en toute objectivité et à savoir se remettre en cause. Savoir s'asseoir sur son ego, c'est parfois ce qu'il y a de plus difficile. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on prend de la bouteille. Hein. Les véritables guerriers sont en général ceux qui ont le plus de cicatrices.
Est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat? Ça aussi, c'est une vraie question. Dieu merci, on ne peut pas avoir que des entrepreneurs, hein, parce que sinon, qui travaillerait dans les entreprises? May, vous vous interrogez sur le mirage de l'entrepreneuriat, quelque part, hein?
Alors moi, je suis venue donc principalement pour parler un peu de mon expérience aussi. Donc, je m'appelle Sorna Maimbake, j'ai 26 ans et je suis entrepreneur administrateur financier donc, dans une agence nationale. Mais je suis également entrepreneur. Alors moi, j'ai fait le CESAC. Je suis revenue de l'étranger, je me suis inscrite au CESAC pour donc, un master, le Centre africain d'études supérieures en gestion. Et à la sortie du CESAC, j'ai voulu entreprendre. Je me suis dit, je veux ma liberté. Quand madame dit que souvent ceux qui réussissent n'ont pas fait l'école, mais souvent il y a des lacunes quand on est gouverné par des gens qui ont des bacs moins 13 dans des entreprises, il y a des lacunes. Et aujourd'hui, CCBM est en train de souffrir de ces lacunes-là, d'un manque de professionnalisation, etc. Donc pour mes frères et sœurs qui s'interrogent s'il faut continuer, moi je dis, allez jusqu'au bout des études. C'est un outil de personnalisation, de construction sociale et identitaire. Ça ne veut pas dire vous pouvez avoir un diplôme en mathématiques et travailler dans l'aquaculture, hein, mais le diplôme, c'est vraiment un outil de construction sociale. Alors moi, mon expérience, quand je suis sortie du CESAC, j'ai lancé un cabinet de consulting en management parce que je me rendais compte que beaucoup d'étudiants voulaient se lancer, etc., dans les startups, avaient les idées, mais n'avaient pas les financements, ou avaient les financements et n'avaient pas les idées. Donc on a commencé et c'était très difficile. Parce que souvent, on parle de l'entrepreneuriat comme un rêve. Oui, je finis, je deviens CEO dans 3 ans, à 30 ans, je conduis. Non, c'est pas ça. Donc, je ne suis pas d'accord quand on me dit qu'on est entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Il y a une construction qui se fait et c'est une voie qu'on choisit. Hein. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être patron. Il y a des patrons, il y a des subordonnés, il y a des gens qui devront intégrer les entreprises, qui devront intégrer donc l'administration publique, etc. Donc, le message que je veux faire passer, faites vos études. Hein. Monsieur disait tout à l'heure, nous sommes dans un pays sous-développé. Je ne suis pas du tout d'accord. Nous ne sommes pas dans un pays sous-développé. Nous sommes dans un pays dont les capacités et les potentialités économiques, énergétiques ne sont pas suffisamment exploitées. Et ces jeunes-là doivent le comprendre. On doit... En tant que jeune aujourd'hui, hein, savoir que ce pays-là est un pays qu'on doit construire de par des connaissances, de par une identité. Construisons d'abord nos identités avant de vouloir être patron, de vouloir réussir, de vouloir entreprendre. Je pense qu'on gagnerait aujourd'hui à se cultiver plus, apprenons à l'école, ayons nos diplômes, allons jusqu'au doctorat, soyons des intellectuels d'abord et puis le reste viendra, Inch'Allah. Merci.
Pas de guerre entre les intellectuels et les entrepreneurs, ça peut être la même chose. Allez, aujourd'hui vous êtes capable effectivement de tout mixer, on a l'impression que tout est possible, que toutes les portes, vous êtes prêtes à les enfoncer, malgré, c'est vrai aussi, les difficultés que vous soulevez les uns et les autres. Un voisin veut témoigner tout au fond dans la salle, l'amphi qui est toujours plein à craquer à l'université Alioune Diop de Bambay.
Bonjour, c'est Agélève.
Pardon, une voisine, je ne vous vois même pas, vous êtes tout au fond. Il y a beaucoup de monde.
Je m'appelle Aïssatou, élève étudiante en MPCI licence 1. La question que je voudrais poser, c'est-à-dire qu'ici, ici au Sénégal ou en Afrique, on voit beaucoup de jeunes qui ont des projets en tête. Mais on voit que ces projets ne sont pas réalisés parce qu'on est sous-estimé par la population. On nous dit souvent que votre projet n'ira pas loin. Vous voyez? Est-ce que ça ne compte pas sur le plan psychologiquement? Parce que nous avons nos réalités ici en Afrique. Merci.
Merci, on en a beaucoup parlé de la confiance, mais c'est vraiment, ça revient tout le temps, cette jeunesse africaine qui veut absolument casser les barrières, avancer. Tout le monde veut s'exprimer. Tiaba Camara, une réponse très courte.
Non, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous aurez mon âge et mon parcours, vous arriverez à relativiser l'opinion des autres. Croyez-moi, elle n'a que la valeur que vous-même vous lui accordez. Je prends mon cas personnel, donc j'ai créé ma première entreprise, j'avais 27 ans. C'est au bout de la quatrième ou cinquième remarque qu'on m'a faite en me disant « Mais, ah dis donc, qu'est-ce que tu es courageuse alors ? Waouh, tu crées ton entreprise !» C'est là que j'ai commencé à avoir des doutes et à avoir un peu peur. Et je n'ai pas écouté ma peur longtemps parce que de toute façon, je n'avais pas le choix. J'avais décidé de créer cette entreprise et je l'ai fait. Et rien n'est facile et rien de valable ne s'obtient facilement. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans la facilité du rôle de la victime, là, qu'on a découragé et qui se dit, bon, ce sont mes réalités sociales, il faut que je fasse. C'est un choix. Soit vous savez ce que vous voulez et vous payez le prix pour l'obtenir, et ce prix est très élevé, sinon tout le monde serait milliardaire aujourd'hui. Soit, en toute connaissance de cause, en âme et conscience, vous savez que vous n'avez pas la force ou la persévérance ou le courage ou l'énergie nécessaire.
Et c'est pas une honte.
Et vous allez faire. Et c'est pas une honte. Il faut se connaître et avoir la lucidité de s'accepter tel qu'on est.
Ou Mariam.
C'est pas une fin en soi d'être entrepreneur.
Il y a une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est la question des mentors. Est-ce que tous, les uns et les autres, les étudiants n'arrêtent pas d'évoquer la communauté, la famille qui n'aide pas, qui ne conseille pas, qui, voire, casse la confiance en eux? Est-ce que vous avez eu concrètement des mentors, ou Mariam? Okay.
À un certain niveau, quand on veut franchir un cap, il vous faut forcément des mentors. Des gens qui l'ont déjà fait, qu'ils réussissent ou pas. Mais des gens qui l'ont déjà fait, qui pourront vous conseiller. Et moi, j'en ai beaucoup. Dans ma famille, je n'ai pas d'entrepreneur. Ma mère, elle est secrétaire dans l'administration. Mon père, c'est un professeur retraité. Mais
Les étudiants
exactement,
dans l'amphithéâtre.
Exactement.
Ils ont peu d'entrepreneurs dans leur milieu, dans leur famille.
L'entrepreneuriat, c'est que des difficultés. Dans l'entrepreneuriat, le succès, c'est l'exception. Parce qu'il y en a, sur 15 000 boîtes qui vont se lancer, les 10 000 ne passeront pas les 2 ans. Ça, on le sait. Et pourtant, on se lance.
Les voisins, les voisines dans la salle, on va vous laisser le mot de la fin. Qui veut nous dire comment vous avez perçu le dialogue, là? Et dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui?
Bonjour, je m'appelle Yael Pendafal Ndiaye, en ingénierie juridique, en licence 2. Donc d'abord, je pense que c'est une bonne chose parce que personnellement, j'avais commencé à créer une entreprise agricole avec mes copines, avec des amis au lycée. Mais malheureusement, on l'a mis en stand-by parce que chacun est orienté quelque part, moi à Bombay, d'autres à Ziguinchor, donc c'est compliqué. C'est dur, donc vous m'avez un peu rassuré sur le fait que ça peut aller, on peut arrêter les études et le faire, ou on peut continuer et après essayer de trouver une solution et après ça arrive. Donc je pense que c'est une bonne chose et vraiment, j'ai été ravie d'être là et de vous écouter. Merci.
Merci à tous les trois, Tiaba Camara ou Mariam, Chérif Ndiaye. Merci aussi au public venu très très nombreux. Merci encore à vous. On va se retrouver, alors on va rendre l'antenne pour le journal. Merci à vous, les voisins et les voisines. Et merci aux autorités de l'université Aliou Diop de Bombay d'avoir permis cette rencontre. Et au Monde Afrique. Demain, Charlie Dupuis présente l'émission. Vous aurez la parole sur le handicap. Quels emplois pour les personnes handicapées psychiques? Ça sera chez 7 milliards de voisins. Sur RFI, dans quelques instants, le journal, nous quittons le campus.